À 3000 mètres au-dessus du désert de l'Arizona, il observe le ciel nocturne. Ces miroirs géants captent la lumière émise par des étoiles situées à 9 milliards d'années-lumière. Grâce à lui, les astronomes voient plus loin que jamais dans l'espace. Ce télescope binoculaire est le plus grand télescope optique du monde. Il est le fruit de plus de 300 ans de génie technique et l'aboutissement de 6 étapes essentielles qui ont permis d'agrandir les appareils optiques. Voici l'histoire de ces incroyables instruments. Six avancées technologiques qui ont permis de construire toujours plus grand. Le Soleil se couche et le LBT, ou Grand Télescope Binoculaire, se met en position.
LBT, c'est David.
Les astronomes effectuent les derniers contrôles avant de commencer leurs observations. Ce soir, une équipe de chercheurs sous la direction de Richard Green va explorer des galaxies situées à l'autre bout de l'univers.
On observe les cocons dans lesquels de nouvelles étoiles et de nouveaux systèmes planétaires se forment. On regarde aussi le cœur des galaxies voisines et les éléments constitutifs d'une galaxie en formation.
Le but de ces observations ? Découvrir comment notre système solaire est né. Le LBT est le résultat le plus récent d'une série d'admirables avancées technologiques. Cette histoire commence au XVIIe siècle, en Angleterre. Un mathématicien de 26 ans invente un extraordinaire appareil, le télescope à miroir. Université de Cambridge, 1669. Ce brillant jeune homme décide d'étudier l'univers.
Sir Isaac Newton est l'un des plus remarquables scientifiques de tous les temps. Quand il s'attaque à un problème, il s'acharne dessus pendant des mois, voire des années. Alors que d'autres se lasseraient ou baisseraient les bras, il est extraordinairement tenace. Et il se met à travailler sur une quantité de problèmes essentiels dans le domaine de la physique.
L'un de ces problèmes concerne les lunettes astronomiques. Leurs performances sont insuffisantes pour étudier les planètes du système solaire. Pour observer ces corps célestes peu visibles dans le ciel nocturne, il faudrait que ces lunettes captent davantage de lumière. Mais leurs lentilles ne sont pas assez grosses. Une lentille sert à focaliser toute la lumière en un même point. Mais les astronomes de l'époque ont des difficultés à agrandir les lentilles. Newton a découvert que quand un rayon de lumière traverse un morceau de verre, il se divise en plusieurs couleurs. À travers une lentille, c'est la même chose. Mais chaque couleur se focalise sur un point différent. Par conséquent, l'image observée à l'aide d'une lunette est floue. D'autant plus floue que la lentille est grande. Newton pense avoir trouvé la solution pour obtenir des images nettes. Il remplace la lentille par quelque chose de complètement différent.
Voici le tout premier télescope à miroir. C'est Isaac Newton qui l'a construit en 1671. Il a utilisé des matériaux de l'époque tout à fait acceptables. Des tubes de carton, une boule de bois pour faire la mise au point. Mais ici, un miroir remplace la lentille.
Le miroir de Newton est un disque de métal qu'on a poli pour lui donner une forme concave. Il reflète la lumière émise par des objets éloignés en la concentrant sur un seul point. Un second miroir plus petit renvoie la lumière dans un oculaire. Comme la lumière ne traverse plus une lentille épaisse, les couleurs ne sont plus divisées. L'image est plus nette que celle de tous les autres télescopes de l'époque.
En janvier 1672, à la Royal Society, les gens restent bouche bée parce qu'il est plus puissant et qu'il procure une meilleure image qu'une lunette traditionnelle de 2 mètres de long.
Désormais, les progrès des télescopes vont de pair avec ceux des miroirs. La taille est primordiale. Plus le miroir est grand, plus il peut capter de lumière. Les miroirs du grand télescope binoculaire sont d'un diamètre colossal.
Ce télescope comporte 2 miroirs primaires de 8,40 m de diamètre. Ils recueillent la lumière des étoiles qui arrivent sur la Terre et ils la concentrent de sorte que nous puissions capter les signaux très faibles qu'envoient ces corps célestes lointains.
Utiliser 2 miroirs permet de collecter 2 fois plus de lumière sur un espace beaucoup plus large. Les 2 miroirs renvoient la lumière vers le même foyer. Deux caméras numériques extrêmement sensibles, qui coûtent chacune plus $1 million, soit environ 750 000 euros, recueillent cette lumière.
Ce ne sont pas des caméras comme celles qu'on trouve dans le commerce. Elles sont faites pour capter une lumière très faible. Avec 4 capteurs de 9 mégapixels, elles procurent un champ de vision à peu près aussi grand que la pleine lune. Abritées par des boîtiers sous vide, elles sont refroidies à l'azote liquide. Elles sont extrêmement sensibles à des éclairages très faibles.
Chaque caméra est précisément paramétrée pour détecter seulement la moitié des couleurs et non pas la totalité du spectre lumineux. En réunissant les images des 2 caméras, on arrive à une qualité impossible à obtenir avec une seule. Le LBT est à des années-lumière de l'époque où Newton observait les astres à l'œil nu. En 1996, ces miroirs et ces caméras n'existent pas encore. On commence juste à construire l'enceinte qui protégera ces précieux matériels contre les éléments. On coule 1400 tonnes de béton pour les fondations du bâtiment sur lequel s'élèvera, en surplombant les arbres, la plateforme du télescope. L'enceinte est portée par quatre énormes chariots roulant sur des rails circulaires. Elle tourne de façon exactement simultanée avec le télescope. Alors que Newton avait bricolé son prototype à l'aide de tubes de carton, il aura fallu 10 ans, une armée d'ingénieurs et 2000 tonnes d'acier et de verre pour construire le LBT. En 1672, grâce au télescope à miroir, les astronomes peuvent pour la première fois observer une image nette du système solaire. Mais pour voir encore plus loin, il faut fabriquer des miroirs encore plus grands. En 1839, l'astronome irlandais William Parsons crée un énorme télescope dans le but de résoudre l'une des énigmes de l'espace. Il veut savoir de quoi sont faits d'étranges nuages lumineux observés dans le ciel nocturne.
Sont-ils constitués de particules de poussière lumineuse, de matière gazeuse, ou bien d'un nombre infini d'étoiles tellement éloignées qu'on ne peut les distinguer individuellement? Comment le savoir? En construisant un télescope géant.
Pour tenter de capter la lumière émise par ces taches minuscules, il faut un miroir géant. À l'époque de Parsons, les miroirs des télescopes sont concaves, comme ceux qu'on utilise pour se raser, et patiemment polis à la main.
Si on saupoudre de l'abrasif entre ces deux morceaux de verre et qu'on les frotte l'un contre l'autre très longtemps, leur surface change de forme. Celui du dessus devient concave et celui du dessous devient convexe. Les miroirs, comme ceux-là, fabriqués à la main, sont d'excellente qualité à cause de la nature aléatoire du mouvement.
À la longue, ce mouvement aléatoire élimine toutes les petites irrégularités et produit donc un miroir concave parfait. Mais le miroir de Parsons est trop grand pour qu'on puisse le polir à la main. Il invente donc une machine. Avec un moteur à vapeur, il fait tourner la plaque de métal destinée à devenir un miroir. Il abaisse sur ce miroir un disque abrasif relié à deux bras. L'un des bras, actionné par une roue, déplace le disque d'avant en arrière. Une seconde roue perturbe la régularité de ce mouvement. De cette façon, la machine reproduit le caractère aléatoire du polissage à la main. Le miroir est ensuite placé dans un tube, non pas de carton, mais de bois, qui fait 17 mètres de long. Ce tube est suspendu par des chaînes à deux énormes murs de pierre. Équipé de contrepoids, il est facile à orienter vers le ciel.
L'inauguration de ce télescope, en 1845, fut l'un des grands événements scientifiques de l'ère victorienne. Toute l'élite de la société était là, des savants, des philosophes, des artistes, et aussi des gens ordinaires. Ils venaient voir l'une des merveilles de l'histoire des sciences.
Parsons dirige son appareil vers l'un des mystérieux nuages lumineux qu'il voyait dans le ciel. Il ne s'agit pas de poussière, mais d'étoiles. On sait aujourd'hui qu'il observait une galaxie voisine de la nôtre, la nébuleuse d'Andromède, composée de milliards d'étoiles.
Le télescope de William Parsons était le grand précurseur des télescopes géants du début du XXe siècle, et bien sûr de l'époque actuelle.
L'enceinte rotative du grand télescope binoculaire est toujours en construction. À l'Université de l'Arizona, on cherche comment donner au miroir une forme incurvée qu'on appelle parabole. Fabriquer une parabole de verre n'est pas difficile. Il suffit de faire fondre ce matériau en lui imprimant un mouvement de rotation.
Cette eau représente la masse fondue. Je la fais tourner doucement, puis de plus en plus vite. La force centrifuge pousse une partie du liquide vers l'extérieur. Comme ça, on obtient cette belle forme parabolique. Et voilà la parabole.
Les techniciens chargés de la fabrication du miroir reproduisent l'opération à grande échelle. Dans un four rotatif géant, ils placent 21 tonnes de verre. Les spécialistes de l'optique vérifient chaque pièce de verre importée du Japon à la recherche du moindre défaut. Le verre fond dans le four qui tourne 7 fois par minute. La force centrifuge repousse le verre fondu qui prend une forme parabolique. Pour qu'il conserve cette forme en refroidissant, le four doit continuer de tourner pendant encore 12 semaines. Ensuite, on polit les miroirs afin d'obtenir une surface parfaite. Encore aujourd'hui, le polissage mécanique reproduit le geste aléatoire de la main.
Normalement, si vous le faites vous-même, si vous êtes un amateur qui fabriquez votre télescope, vous frottez cette surface avec un abrasif jusqu'à ce qu'elle soit aussi lisse que possible. Eh bien, cette machine à polir fait le même travail. Tous les tampons que vous voyez ici s'appliquent à la surface du miroir et le polissent. Ces vérins appliquent une force variable qui modifie la forme de cet ensemble de tampons. Chaque tampon frotte avec une force et un angle d'attaque variable à chaque fois qu'il entre en contact avec la surface en verre.
En fin de processus, la machine ôte à chacun de ses passages sur le disque une couche de verre de 100 atomes seulement. On applique ensuite sur chaque disque une mince couche d'aluminium qui créera un effet réfléchissant. On place chaque disque dans une chambre hermétique. De puissantes pompes évacuent l'air afin de créer le vide dans la chambre. Dans des creusets situés sur les côtés, on chauffe à haute température de petites quantités d'aluminium. Avec l'évaporation du liquide, des molécules d'aluminium flottent dans la chambre et se condensent à la surface du verre. Dans le vide, les molécules se répartissent régulièrement, ce qui produit un miroir impeccable. Les miroirs récemment recouverts d'aluminium captent plus de 90% de la lumière qui pénètre dans le télescope. Après presque 4 ans d'usinage, de polissage et d'essais, la fabrication des miroirs est enfin terminée.
Le résultat était spectaculaire. par rapport à une surface plane parfaite, la différence était de 25 nanomètres. C'est comme si sur tout l'Atlantique, les vagues ne dépassaient jamais les 2 cm. C'est vraiment une surface magnifique. Et lorsqu'on regarde le ciel avec ce miroir, on constate son extrême qualité.
En 1845, grâce au miroir contenu dans son télescope, Parsons pouvait apercevoir les étoiles les moins brillantes de la galaxie. Mais pour étudier plus en détail des étoiles lointaines, les concepteurs du télescope Hooker doivent trouver comment suivre leur mouvement. Les astronomes du début du XXe siècle cherchent à capter la lumière d'étoiles tellement éloignées et peu brillantes que l'œil humain ne peut les observer, même avec le télescope le plus puissant. Le seul moyen de les voir est de les photographier.
La photographie au télescope n'effectue pas toutes les petites compensations naturellement assurées par la perception humaine. Un cliché est une image brute. L'appareil ne saisit que ce qui lui arrive, sans rien filtrer.
Le plus difficile est de garder ces parcelles de lumière dans le viseur pendant une durée d'exposition suffisante. Le problème est que la Terre tourne et qu'en comparaison, les étoiles sont assez peu mobiles, ce qui donne l'illusion qu'elles se déplacent dans le ciel. Il est donc très difficile de rester focalisé sur une étoile. C'est pourquoi les scientifiques ont eu l'idée de placer leur télescope sur une monture pivotante qui tourne dans le sens inverse de la rotation terrestre. Cela permet de garder le télescope fixé sur un point donné. Mais il faut que la monture tourne exactement à la même vitesse que celle de la Terre.
Si la rotation du télescope n'est pas précise, les clichés sont flous. Pas moyen d'obtenir de photos d'une étoile en particulier. Une photo floue ne vous apprend rien.
Par chance, il existe déjà un appareil qui fonctionne simultanément avec la rotation terrestre. C'est l'horloge. Sur son cadran, l'aiguille des heures fait 2 tours pendant que la planète en fait 1. Le télescope Hooker, construit en 1906, comprend un mécanisme d'horloge. Ce mécanisme actionne un volant d'inertie de 5,50 m de diamètre. Avec une précision parfaite, cette roue fait tourner les 100 tonnes du télescope.
On a donc une énorme machine, bien plus grosse qu'une locomotive par exemple, et qui fonctionne pourtant avec la même précision qu'une montre.
À l'aide du télescope Hooker, Edwin Hubble obtient d'incroyables photographies. Ce cliché de la nébuleuse d'Andromède révolutionne les connaissances astronomiques. Selon les calculs de Hubble, la nébuleuse se trouve à 1 million d'années-lumière, bien trop loin pour faire partie de notre galaxie. Il doit donc s'agir d'une galaxie en soi. Hubble est le premier à démontrer que notre galaxie n'est qu'une galaxie parmi des millions d'autres. L'enceinte du grand télescope binoculaire est maintenant terminée en haut de cette montagne de l'Arizona. Mais avant l'installation des miroirs, il faut perfectionner leur monture afin qu'ils se déplacent dans le télescope avec une précision maximale. Normalement, il suffit pour cela de lubrifier ce qu'on appelle des paliers.
Voici deux disques de verre qui représentent les paliers. Par-dessus, je place un poids de 5 kg. Les deux disques se touchent. J'essaie maintenant d'appliquer une force pour déplacer ce poids. Vous voyez que la paille se plie et qu'elle finit par se casser. Puis je renouvelle l'expérience, mais cette fois en versant quelques gouttes de lubrifiant entre les disques. Quand je pose celui du dessus, vous remarquez que le lubrifiant s'étale en une très fine pellicule. Quand on replace le poids dessus, il suffit d'une très légère poussée pour le faire glisser et tomber. Voilà donc le principe. Une très mince couche d'huile et d'énormes forces qui maintiennent les molécules les unes contre les autres. Ces forces résistent à de considérables poids mécaniques. Voilà comment les paliers fonctionnent.
Mais un appareil aussi lourd que le grand télescope repousserait la couche de lubrifiant vers l'extérieur. C'est pourquoi on fait reposer sa monture sur quatre gros tampons. Et on injecte de l'huile sous haute pression vers le haut pour remplacer le lubrifiant évacué. Le télescope glisse donc sur une fine pellicule lubrifiante.
Voici comment on élève cette structure. Cette monture en forme de C est comme la base d'un fauteuil à bascule. Deux moteurs d'environ 5 chevaux chacun, placés de part et d'autre, suffisent à faire monter 500 tonnes de l'horizontale à la verticale, autrement dit vers le zénith, en l'espace d'une minute.
En 1917, le télescope Hooker avait dévoilé plus de secrets que les astronomes n'osaient espérer. Mais les lumières des villes les empêchaient d'aller encore plus loin. À la fin des années 1920, Edwin Hubble, en mesurant la distance qui nous sépare de lointaines galaxies, remarque quelque chose d'étrange. Les étoiles semblent s'éloigner les unes des autres. Cela signifierait que l'univers s'agrandit. Pour vérifier la théorie de Hubble, il faudrait un télescope équipé de deux miroirs deux fois plus grands que ceux des appareils de l'époque. Il n'y a alors aux États-Unis qu'un seul fabricant qualifié pour fabriquer ces miroirs. Mais il se trouve sur la côte Est. Ce n'est vraiment pas l'endroit idéal pour installer un télescope. Tout comme aujourd'hui, les grandes villes telles que New York créent une pollution lumineuse gênante pour l'observation spatiale. On finit quand même par trouver un emplacement parfait. Une montagne tellement éloignée des agglomérations que le ciel y est plus clair que partout ailleurs en Amérique. L'ennui, c'est que le mont Palomar se situe en Californie à plus de 3000 km. Il faut donc transporter les miroirs à l'autre bout des États-Unis.
C'est une opération de grande envergure. L'ensemble représente un poids énorme. On n'a jamais rien réalisé de plus ambitieux en verrerie. Bien sûr, à l'époque, le principal moyen de transport est le chemin de fer.
Mais il n'existe pas de wagon assez large pour transporter à plat une charge de 5 mètres de diamètre. Et si on place le miroir à la verticale, le convoi sera trop haut. Pour réduire sa hauteur, les ingénieurs rétrécissent les roues de 18 cm. Puis, ils percent une fosse au milieu du wagon pour que le disque repose juste au-dessus de la voie ferrée. Pour absorber les chocs, ils tapissent le wagon de caoutchouc. Et ils le lestent avec des poutres d'acier pour éviter que le chargement se renverse. Le convoi peut enfin partir pour son périlleux voyage.
Les gens venaient en masse le regarder passer. Ils étaient enchantés de ce spectacle, de voir ce magnifique exemple du génie américain traverser le continent.
Mais cet enthousiasme n'est pas partagé par tous. L'astronome qui lui a donné son nom ne tarde pas à le découvrir.
George Ellery Hale, qui fut à l'origine de la construction de ce célèbre instrument, avait déclaré dans un journal américain qu'avec ce télescope, on pourrait remonter le temps jusqu'à l'ère des premières galaxies. On pourrait donc voir l'empreinte de Dieu et observer la naissance de sa création, l'univers. Hélas, cette idée ne plaisait pas du tout à une poignée de fondamentalistes.
Les ingénieurs des chemins de fer craignent que des fanatiques envoient des projectiles sur le miroir. C'est pourquoi ils le protègent par un coffrage pare-balles en acier de 6 mm d'épaisseur. En juin 1948, le miroir géant arrive en sécurité sous son dôme. On peut maintenant vérifier la théorie de Hubble, selon laquelle l'univers se dilate.
La chose la plus importante que nous apprend le télescope Hale, c'est que l'univers est probablement né d'un Big Bang.
Les données recueillies par le télescope démontrent que toutes les étoiles de l'univers s'éloignent d'un point unique. Tout aurait donc commencé à cet endroit. Par la suite, un événement cataclysmique aurait tout repoussé vers l'extérieur. C'est cet événement qu'on appelle le Big Bang. Octobre 2003, les astronomes du LBT attendent impatiemment l'arrivée des miroirs géants. Les miroirs ne doivent pas traverser l'Amérique, mais il faut quand même les acheminer à plus de 3000 mètres d'altitude. Il existe cette fois aussi des risques de sabotage. Non pas par des fondamentalistes, mais par des écologistes.
Nous sommes en plein parc national naturel. À l'entrée, une pancarte indique « terre d'utilité multiple ». Mais certains n'ont pas la même conception que d'autres de l'usage qu'on peut faire de cette montagne.
Selon certains militants, installer le télescope à cet endroit est un sacrilège. Ils trouvent une cible à leur colère, le convoi. Le précieux chargement arrive au pied de la montagne sous escorte policière. Mais le plus dur reste à accomplir. La route devient une succession de virages en épingle à cheveux. et on n'a pas le droit de couper un seul arbre pour faciliter le passage. Si on incline le miroir à 60 degrés, il pourra passer entre les troncs et sous les plus hautes branches. Mais sur cette forte pente, et compte tenu du centre de gravité du chargement, celui-ci risque de se renverser en écrasant les arbres et en brisant un miroir de 8 millions d'euros. Pour maintenir la remorque à un niveau constant, on équipe chaque roue d'un piston hydraulique. De cette façon, le miroir garde un angle correct. Au moment où le convoi approche du sommet, le vent souffle à 100 km/h. Mais l'équipe chargée du transport ne se laisse pas démonter et le miroir arrive sain et sauf.
En trois jours, ils ont acheminé les parties en acier. Les deux miroirs primaires étaient donc prêts. Tout est arrivé en parfait état. Le défi avait été relevé avec succès.
Et pas un arbre n'a souffert. L'altitude offre aux astronomes une vue plus claire du ciel. Mais la nuit, le froid glacial dérègle leurs délicats appareils. Les ingénieurs soviétiques doivent résoudre le même problème, car ils ont eux aussi un nouveau télescope à installer en altitude. En 1966, le télescope de Palomar aux États-Unis est toujours le plus grand du monde et procure des images sans égale de l'univers. Refusant de s'avouer vaincu, l'Union soviétique veut faire encore mieux avec le télescope Bolshoï. Il sera installé dans le Caucase, dans le sud du pays. Mais la nuit, dans ces montagnes, la température descend jusqu'à moins 10 degrés. Les épaisses parois métalliques de l'enceinte conservent la chaleur recueillie dans l'après-midi. En revanche, le soir, quand on ouvre les portes en vue d'observation, l'air froid y pénètre. En refroidissant, le miroir se contracte. Sa surface déformée produit donc une image floue.
Je vais créer une parabole sur cette surface et pour ça, je fais le vide. Cette surface concave représente donc le miroir du télescope. Il y a aussi la lumière émise par des étoiles à des milliards de kilomètres. Je la représente par ces lasers. Ils se reflètent sur le miroir parabolique. J'arrive à bien focaliser la lumière. Maintenant, je mets cet écran. Les deux points de lumière sont bien focalisés sur le télescope. J'ai donc une image nette. Par contre, si je chauffe le miroir, les deux points de lumière se décentrent, ils se séparent. Et on obtient une image brouillée, sans intérêt pour l'astronome. Même si je supprime la source de chaleur, comme quand on ouvre le dôme le soir, les deux points restent séparés. C'est parce qu'ils mettent un certain temps à retrouver leur état normal. Ceci n'est qu'une coupe à fruits, mais à l'échelle d'un télescope de 6 mètres de diamètre, il faut beaucoup de temps pour refocaliser ces deux points. C'est l'un des problèmes que nous avons rencontrés ici.
Pour résoudre le problème, les ingénieurs du télescope Bolshoï gardent le miroir à température constante. Ils installent des unités de refroidissement à côté du dôme. Des ventilateurs soufflent l'air de la journée, plus chaud, sur des tuyaux contenant du gaz froid. Cela amène l'air à la température nocturne. Des pompes propulsent cet air rafraîchi sur le dôme pour qu'il soit à la même température que celle de l'extérieur quand on ouvrira les portes le soir venu. Les astronomes de l'Arizona rencontrent les mêmes difficultés que leurs collègues soviétiques.
Nous sommes au sommet d'une montagne de 3200 mètres, avec un climat continental américain très marqué. En hiver, on descend autour de moins 10 degrés, avec des vents très vifs. Tandis qu'en été, il fait doux, avec des températures de l'ordre de 15 à 18 degrés.
Au lieu de refroidir le bâtiment entier, les ingénieurs décident de refroidir seulement le miroir. Dans des alvéoles creusées à l'arrière du miroir, ils injectent de très minces filets d'air froid. Le miroir est donc refroidi de l'intérieur. Sa température est constante et sa surface garde sa forme.
En un temps très bref, nous assurons ainsi l'équilibre entre la plaque frontale, cette plaque de verre de 2,5 cm qui constitue la surface du miroir, et son environnement.
En 1975, les astronomes du télescope Bolshoï pouvaient, avec leur miroir climatisé, effectuer des observations précises, même pendant les nuits les plus froides. Pour avoir une vue parfaite de l'univers, il restait un seul obstacle à surmonter. Il faut traverser la dense atmosphère terrestre.
La nuit, on voit les étoiles clignoter. C'est bien joli, mais pour les astronomes, c'est très embêtant. Ce clignotement est dû aux turbulences atmosphériques. La lumière se déplace plus vite dans les poches d'air chaud que d'air froid, et c'est cela qui provoque le clignotement. Voici un laser dont ce miroir plat reflète la lumière sur ce carton. Il forme un point lumineux bien régulier. Maintenant, créons une perturbation.
Maggie place une flamme sur le trajet du rayon lumineux.
On voit que le point lumineux n'est plus régulier. Il bouge, problème que les astronomes doivent résoudre.
Les rayons lumineux se déplacent dans l'espace sous la forme d'ondes. Ces ondes sont toujours parallèles, en phase les unes avec les autres. S'il n'y avait pas d'atmosphère, les ondes lumineuses arriveraient sur Terre en phase. Les miroirs des télescopes pourraient les focaliser et produiraient des images nettes. Dans la réalité, elles traversent dans l'atmosphère des zones d'air chaud qui accélèrent leur vitesse ou d'air froid qui la ralentissent. Quand elles atteignent un télescope, elles ne sont pas en phase les unes avec les autres. On obtient alors des images floues. Construire les observatoires au sommet des montagnes ne résout donc pas tous les problèmes. Mais on a fini par trouver un moyen radical pour obtenir de parfaits clichés.
Et la navette spatiale Discovery décolle avec le télescope Hubble.
On installe un télescope sur une fusée spatiale.
Pourquoi envoyer un télescope dans l'espace? Pour éviter toute interférence atmosphérique ou terrestre. Le télescope fonctionne dans le vide total et offre donc des vues parfaites en permanence. L'effort technique en vaut la chandelle.
Prêt pour séparation du SIV.
En 1990, la navette spatiale Discovery place le télescope Hubble sur orbite.
Vitesse de Discovery, 4300 pieds seconde.
À plus de 500 km au-dessus de la Terre, Hubble échappe aux perturbations atmosphériques. Bien qu'équipé d'un miroir de taille limitée, Hubble procure de stupéfiantes images du fin fond de l'espace. Pour prendre cette photographie historique, les astronomes ont exercé leur télescope à observer un secteur apparemment vide. Puis, ils ont ouvert l'obturateur plus de 800 fois pendant près d'un million de secondes, soit l'équivalent d'un peu plus de 11 jours. Le résultat, la plus lointaine image de l'univers. Le vide apparent abrite en fait 10 000 galaxies contenant chacune 10 milliards d'étoiles. Malgré ses qualités indéniables, Hubble présente un gros inconvénient. Si l'un de ses instruments tombe en panne, une navette doit aller le réparer. Ce n'est pas encore l'idéal. Le télescope parfait serait à la fois installé sur Terre et insensible aux turbulences atmosphériques. Les concepteurs du grand télescope binoculaire sont sur la voie. Bientôt, ils utiliseront un deuxième jeu de miroirs déformé pour compenser la distorsion de la lumière par l'atmosphère. Ces petits miroirs seront fixés au-dessus des miroirs primaires. Il y aura derrière eux des centaines de pistons motorisés. Ceux-ci feront avancer ou reculer les miroirs dans une mesure infime pour réaligner les ondes lumineuses. Les ondes renvoyées dans la lentille seront parfaitement parallèles et en phase. Les images obtenues seront 10 fois plus précises que celles recueillies par Hubble. Une fois ce système en fonctionnement, les astronomes pourront observer le ciel à travers l'atmosphère exactement comme si elle n'existait pas. Ils verront non seulement des étoiles lointaines, mais aussi les planètes en orbite autour d'elles. Ils espèrent ainsi comprendre comment notre propre planète s'est formée et comment la vie est apparue sur Terre. Le grand télescope binoculaire est une véritable merveille de la science. Héritier des audacieuses inventions du passé, c'est aujourd'hui notre plus grande fenêtre ouverte sur l'univers.